Il y a une boutade qui vient d'un album Astérix, le cadeau de César. Âge canonix, personnage, vieux, qui a une épouse d'une beauté incroyable, beaucoup plus jeune que lui, à peu près 50 ans plus jeune, qui dit « Moi, j'ai rien contre les étrangers, mais ceux-là, ils sont pas de chez nous. » Mon invité, Luis Zuniga, l'a vécu, mais vraiment, cette réalité-là, dans ses années, quand il est arrivé ici au Québec, il y a quelques années. Luis Zuniga, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour et bienvenue. Vous êtes chilien d'origine.
Oui.
Vous avez dû quitter le Chili parce que, bon, la répression très dure de Pinochet pendant de nombreuses années. Et là, vous arriviez, quelques dollars en poche, 4 $ en poche, des vêtements d'été en plein mois de septembre. Et là, l'hiver s'en venait ici, alors que c'était le printemps qui se préparait là-bas.
Oui, tout à fait.
Et aussi quelques mots de français, tout au plus. Ça a été tout un choc, cette arrivée-là, mais vous n'aviez pas le choix.
Oui, au Chili, on vivait un moment très difficile, la dictature de Pinochet, et la répression, beaucoup de disparus. Mm-hmm. C'était la survie, il fallait quitter Chili, c'était vraiment la terreur.
Est-ce que c'est à cause de vos idées à l'époque, ou est-ce que c'est la tension sociale?
Un peu de tout, hein. Mm-hmm. Un peu de tout, parce que Chili, c'était la Suisse de l'Amérique latine. On a vécu 150 ans de démocratie.
Absolument.
C'était un gouvernement d'agenda, c'était un gouvernement qui voulait faire le socialisme vers la voie démocratique. Jamais on n'avait vu quelque chose de la sorte au Chili. Mm-hmm. Donc il fallait vraiment quitter. Il y avait la question économique aussi, la question de survie, le manque de possibilités, et l'état de siège. C'était vraiment difficile.
Et c'est arrivé à Montréal, il y a une dame d'origine asiatique qui vous a aidé.
Oui, parce que normalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je ne parlais pas français, anglais trop peu, et c'était un problème pour la communication. Évidemment, une fois dans le métro, j'ai manqué mon station, et finalement, il y a une madame qui m'a aidé. Et c'était un Chinois qui parlait espagnol. C'est vraiment, vraiment comique.
Est-ce qu'on a gardé contact?
Malheureusement, non.
Non,
mais il était beaucoup plus âgé, mais ça fait 40 ans pour moi, il est décédé, mais je la remercie encore.
Luis Zuniga, c'est arrivé, quand on prend un aller simple comme ça, simple appel téléphonique à l'époque, c'était une vingtaine de dollars, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait rien de tout ça. Là. Est-ce qu'on sent vraiment, un autre proverbe québécois qui dit « Tiens-toi bien après le pinceau, on enlève l'échelle », est-ce qu'on sent vraiment déchiré, seul, loin de tout, face à soi-même? Et comment est-ce qu'on s'en sort?
Je peux dire ça, que j'ai vécu ça, c'est quitter notre pays de naissance, c'est une rupture totale. Mm-hmm. Laisser nos amis, nos valeurs, notre culture, nos amis, nos voisins, notre famille, c'est quelque chose de profond. Et quand on arrive ici au Québec, on voit que ici, c'est pas, même que c'est un pays latin, c'est un pays individualiste, un peu plus froid, même que les Québécois sont chaleureux. Mm-hmm. Mais la température aussi. C'était tout le monde de rester à la maison et tout ça. Donc, la douleur se multiplie par 2 ou par 3. Pas comme en Amérique latine. L'Amérique latine permet la température, que tout le monde est à l'extérieur, il y a la communication. Ici, la température ne permet pas.
Il y a 4 à 5 mois par année où on doit être en dedans.
C'est ça. Donc, justement, c'est le mois de septembre. Moi, je sortais, je voyais tout le monde. En fait, c'était vraiment difficile.
A fallu donc apprendre le français,
oui.
Apprendre les codes sociaux, réadapter son métier. Un métier où vous avez travaillé, c'est l'informatique qui est votre territoire. Donc, vous avez pu arriver à faire tout ça, vous l'avez fait. Mais là, vous avez rencontré quelque chose de quel il en est né un livre, c'est ton accent, Luis. On parle français, on comprend la langue, on comprend les codes, on est formé pour faire un travail. Pero tengo un acento quand on parle le français et on perd un emploi à cause de son accent. Non pas une fois, mais 2 fois.
2 fois. Pour moi, je ne peux pas généraliser parce que ma femme est québécoise, je ne peux pas dire que tous les Québécois sont comme ça. Ce sont certains individus qui font la vie difficile aux gens issus de l'immigration. Certaines personnes. Mm-hmm. Pour moi, il faut les aider, premièrement. Les sensibiliser, la xénophobie, éliminer tout ça, mais c'est vraiment c'est un travail à long terme. Maintenant, c'est beaucoup moins, mais ça existe pareil. Mais j'ai décroché cet emploi. Cet emploi-là, c'est un concours ouvert à tout le monde. À l'époque, j'ai envoyé mon CV, j'ai été accepté. Et j'ai passé l'examen, il y avait 400 candidats. Et du moment que j'ai reçu un appel, que j'étais choisi, j'ai réussi le concours, quelques mois après, j'ai travaillé pour deux départements. Le responsable de l'autre département me convoque dans son bureau en disant que moi, il serait le responsable de 37-37 Sherbrooke Est, de la siège sociale de la commission des écoles catholiques. Maintenant, c'est la commission scolaire de Montréal.
C'est ça, mais à l'époque, il y avait un droit constitutionnel qui faisait que Montréal pouvait, l'île de Montréal pouvait avoir des commissions scolaires religieuses.
Religieuses.
C'est ça, c'est la même chose à Terre-Neuve aussi.
Finalement, trois jours après, je reçois une convocation du directeur général qui voulait me rencontrer. Et moi, j'ai pensé que c'était vraiment... J'ai dit à ma femme, écoute, on va me préparer une 5 à 7, une surprise, quelque chose. Mais le gars m'a dit, aujourd'hui, c'est fini ton contrat, pas pour tes compétences, sinon parce que tu as un fort accent latino. Moi, j'ai pensé que c'était une blague au début, mais c'était sérieux.
C'était sérieux.
Et après ça, bon, tout le monde... Les journalistes, les médias de communication, les syndicats, les partis politiques, l'organisme, la Ligue des droits, tout le monde m'a défendu, m'a appuyé. Et on a créé un comité d'appui à l'Usuniga pour affronter vraiment la grosse machine qui c'était le mouvement confessionnel à l'époque, qui avait instauré l'appareil administratif intégriste, confessionnel, l'administration comme telle. Et c'était difficile de pénétrer. Et il y avait mon cas à servir vraiment pour ouvrir les Montréal, la société montréalaise à la réalité montréalaise. C'est la première fois qu'on commence à parler et on a ouvert le débat de fond de l'intégration, de la diversité. C'est grâce à mon cas. Et j'ai gagné une jurisprudence auprès de la Commission des droits de
l'homme. D'une certaine façon, je dirais aussi que ça prenait un Chilien pour le faire.
C'est tout
ça
à fait.
Prenait une tête dure de Chilien pour le faire.
Tout à fait, parce que M. Gérard Leblanc, à l'époque, disait, lui, ça prenait toi seulement pour ouvrir ça. Nous, on a parlé, et finalement, c'est toi qui ouvres la porte.
Parce que trop souvent, il y a des gens qui, bon, j'ai un accent soit, et se referme, accepte un emploi moindre, fait pas de vagues, ainsi de suite. Vous avez écrit un livre, mais ça prenait l'appui d'une femme, ça prenait l'appui d'une famille, ça prenait l'appui des gens autour de vous. Est-ce qu'il y a eu du découragement en cours de route?
Beaucoup. Beaucoup parce que j'étais affaibli au niveau financier. J'ai subi l'intimidation et les gens qui sonnaient la porte à 4 heures du matin. Mes pilotes de l'auto étaient dégonflés à chaque jour. Et ma femme a subi une dépression. J'avais des problèmes financiers. Je n'avais pas zéro pour vivre pendant une année. Et c'était difficile. Personne ne voulait m'engager parce que les gens pensaient que moi...
C'est un fauteur de troubles.
C'est ça. Et finalement, c'était à cause de mon accent. C'est tout ça relatif à mon accent. Personne ne disait, écoute, je pourrais t'engager, mais sauf que tu es sorti à la télévision et tout ça, mais je ne sais pas, mon boss, qu'est-ce qu'il va dire. C'était plutôt ça. C'était difficile.
Aujourd'hui, 40 et quelques années plus tard, vous avez vécu plus longtemps ici qu'au Chili. Vous êtes d'ici, pero con el acento qui est encore là, ça c'est normal. Est-ce qu'on cesse un jour d'être immigrant?
Moi, je pense que toujours on se sent immigrant. Pourquoi? Parce qu'on voudrait vraiment participer dans le Québec français, comme on doit. Et il y a une discrimination systémique à tous les niveaux, de la fonction publique, parapublique, municipale, scolaire, la police. En fait, à tout niveau. J'ai rencontré le président de la commission des droits de la personne et lui-même me dit, Jacques Frémont, lui va voir le texte qu'on a fait. On a envoyé 5 CV du moment qu'il était un nom de famille différent, déjà discriminé. Et c'est nous qui avons fait ce texte-là. Et le public s'est trouvé dans le site de la commission des droits de la personne. Donc ça, c'est un problème systémique. D'une part, il y a la volonté du gouvernement de Québec et du Canada d'amener des immigrants au Québec pour question démographique, l'envieillissement de la population, pour question économique, et
dénatalité.
Il y a une volonté politique, mais d'autre part, il y a des obstacles au niveau des employeurs. Il y a des employeurs qui ne veulent pas engager des jeunes issus de l'immigration. C'est carrément non. Il y a des statistiques qui a fait même Radio-Canada, et il y a quelqu'un qui est sorti de façon publique, région par région, municipalité, tout ça, les institutions, qui ne veulent pas engager. Donc, est-ce qu'on se sent vraiment immigrant? Oui, du moment qu'on voudrait vraiment participer et s'intégrer, l'intégration passe toujours dans le milieu du travail.
Vous avez deux enfants. Votre fils a écrit un témoignage qui est dans ce livre, Louis Zuniga, ton accent, Louis. Vos enfants s'appellent Zuniga, et pourtant ils ont un accent d'ici, ils sont nés dans le banc de neige, c'est ça. Est-ce que ça change quelque chose pour vos enfants, pensez-vous?
Je ne pense pas à la deuxième génération, non, mais ma fille est avocate depuis 4 ans, et au barreau, quelqu'un lui avait posé la question de quel pays elle venait. Ma fille dit Zuniga. Pourquoi? Parce que vous êtes Zuniga, ma fille est québécoise, est née ici, mais son nom de famille est Zuniga. Je ne pense pas que la deuxième génération peut avoir des problèmes comme la première génération, mais des problèmes peuvent avoir pareil. Mais je vois que de plus en plus, on commence à avoir une ouverture à la diversité au niveau de l'emploi aussi.
Vous vivez à l'extérieur de Montréal, en banlieue, dans une ville qui est tout de même très monochrome, blanche, québécoise, ainsi de suite, qui change un petit peu, mais pas pour la peine, là. Votre femme est de cette ville-là, c'est Boucherville qui est juste à côté, là. Est-ce qu'on sent une différence dans la ville?
Non, du tout. Mes meilleurs amis sont à Boucherville. J'ai plus d'amis à Boucherville depuis 24 ans. J'étais coach d'équipe. Je suis très ami avec...
Ne pas me dire que vous avez coaché le hockey quand même.
Non. Le hockey, je ne sais même pas patiner. Je connais le maire de Boucherville, un grand ami. Le député, M. François Bonne, c'est mon grand ami. C'est-à-dire, beaucoup de gens québécois et qui sont vraiment transparents. Ce sont des gens qui vraiment... Je ne vois pas à Boucherville ces problèmes-là d'discrimination ou quelque chose comme ça. Au contraire, je vois que la discrimination, ça existe quand les problèmes qu'il y a, et surtout l'accent. Une des choses que j'ai remarqué, que mon problème de l'accent commence toujours, parce que quand moi, j'ai commencé à travailler des emplois précaires, c'était des migrants, de nettoyage, une restauration et tout ça, mon accent... Il n'y avait aucun problème. Quand j'ai commencé à travailler en informatique, j'étais dans les groupes, aucun problème. Le problème, c'est que quand on commence à avancer et se démarquer, c'est là qu'il y a l'accent, que tu es gros, que tu es ici, là. Mais c'est là que l'accent, parce que maintenant, j'ai travaillé, j'étais directeur d'informatique, chef d'équipe, chef de projet, professeur d'informatique, analyste d'affaires, analyste fonctionnel. J'ai travaillé dans les grandes organisations, la Caisse de Jardin, la Banque Nationale. Le problème, c'est vraiment que quand on veut se démarquer, vraiment moi, c'est une personne qui apprend vite, qui travaille très bien et fort. C'est là qu'ils commencent à parler. Bon, l'accent. C'est sûr que l'accent, c'est quelque chose, une barrière tout de suite. Mais quand on reste dans l'équipe et tout ça, c'est le même accent, mais ça passe inaperçu.
L'accent est encore présent, mais c'est chez vous. Vous êtes retourné deux fois au Chili, trois fois. On se sent plus tout à fait de là-bas et on se sent pas complètement d'ici. Est-ce qu'on est entre les deux?
Je ne pense pas. Je pense que je suis plus québécois. C'était moi, les relations que j'ai avec mes amis, c'est notre discours. Et à la rigueur, à la fin, quand il reste une semaine, j'ai dit à ma femme, j'ai hâte de retourner chez moi. Québec, pour moi, j'ai vécu 40 ans ici. Et 19 ans au Chili. Donc, ma vie est ici, mes enfants sont ici.
Ouais, c'est
ici. Je ne pourrais pas changer Québec.
C'est chez vous.
Parce que même qu'on peut faire des critiques, on peut faire plein de choses, mais pour moi, c'est une bonne société. Il y a beaucoup de choses que... Et au Chili, il y a la discrimination aussi, pareil. J'ai parlé avec la présidente de Chili aussi, m'a reçu pour le livre et tout ça. Et on constate qu'il y a beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de mécanismes comme il y a ici, de discrimination pour défendre les droits fondamentaux. Et ici, c'est plus évolué à tout niveau. C'est une bonne société, beaucoup de classes, les services au niveau des hôpitaux, tout ça, même gratuit. Au Chili, c'est énormément cher. Donc ici, on peut dire qu'avec une personne avec très peu d'argent ou avec un peu d'efforts, comme moi, je l'ai fait, je me suis acheté une maison à vous servir. Je ne suis pas riche. Et je vis bien. Et la qualité de vie qu'il y a ici, je ne peux pas la comparer ailleurs.
Il y a un immigrant qui m'avait dit une fois, ici, c'est un peu comme, pour nous en tout cas, immigrants, c'est un paradis, mais avec un hiver.
Tout à fait. Bon. L'hiver, maintenant, l'hiver, il commence à m'habituer.
Après 40 ans, il commence à s'habituer.
Mais il commence à m'habituer, mais sauf que j'ai tout blanc. Et l'hiver, pourquoi je ne fais pas de sport? Mais maintenant, on pense avec ma femme de s'acheter des raquettes ou de ce qu'ils font pour faire quelque chose. Mais je m'en vais au gym et tout ça. Mais le froid, je suis incompatible avec le froid. Janvier, février, je pourrais m'en aller n'importe où. Mais le reste, c'est parfait.
N'ayez crainte qu'il y a bien des Québécois de souche qui sont comme vous aussi.
Ma femme aussi dit la même chose. Quand arrive l'hiver, pour moi, c'est incompatible. C'est trop froid. Mais quand même, pour moi, j'ai ma famille ici, la famille de ma femme, mes enfants sont ici. Pour moi, je ne peux pas comparer Québec ailleurs. C'est une qualité de vie extraordinaire. Boucherville, où j'habite, c'est vraiment beaucoup classe. Et je suis tellement content et heureux d'avoir choisi Québec.
Louis Zuniga, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Et merci pour la tête dure, malgré ton accent, Louis.
Merci beaucoup.